Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Antoine Cavallero.
RTL 18h10, Elon Musk, Taylor Swift, Bernard Arnault, leur point commun, vous pouvez suivre leurs déplacements en jet privé en temps réel. Des comptes Twitter dédiés s'en occupent. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Le but de ces comptes, dénoncer des comportements jugés scandaleux.
Oui, et ce ne sont pas des ONG écologistes qui tiennent ces comptes, mais parfois de simples citoyens. Ils compilent en réalité des données parfaitement publiques et mettent en ligne les minutes de vol et les aéroports de départ et d'arrivée des milliardaires ainsi que le CO2 émis pendant ces voyages. Là, pour but de montrer au grand public donc que certains utilisent de manière intensive leurs avions privés. Et cette nouvelle méthode d'interpellation, finalement, sur les réseaux sociaux, a du bon, selon Alex Monvernet, porte-parole d'Alternatiba, un mouvement citoyen pour la justice climatique.
De montrer qu'il y a des responsables et qu'eux continuent à vivre normalement alors qu'on va demander à la population de faire des efforts, de couper leur Wi-Fi, couper la lumière en sortant d'une pièce, etc., comme c'est demandé par le gouvernement. Ça permet de montrer, on va dire, la démesure entre ce qui est demandé aux citoyens lambda et ce qui n'est pas demandé justement aux responsables de la crise climatique.
Et les associations écologistes espèrent que ces comptes vont faire évoluer les mentalités et que les grands patrons feront donc des efforts de sobriété.
Arnaud Touche du service économie de RTL, merci à vous. Les avions, faciles à pister. Les bateaux, ça semble un peu plus compliqué. Où va donc le Razoni, le nom de ce bateau à son bord 26 000 tonnes de maïs, le premier navire à avoir quitté l'Ukraine. Il devait accoster au Liban, sauf qu'il a été dérouté. On ne connaît pas sa nouvelle destination. Sophie Jousselin, bonsoir.
Bonsoir.
À beaucoup de zones d'ombre autour de ce bateau.
Oui, à commencer par les déclarations de l'acheteur. Il a annoncé que finalement, il ne voulait plus de la cargaison à cause du retard de livraison, 5 mois, et parce qu'il a des doutes sur la qualité du maïs. Un revirement de situation brutale et très étrange quand on sait à quel point cette première livraison était symbolique. L'Ukraine n'aurait donc pas vérifié avant le départ du bateau que l'acheteur était encore intéressé 5 mois après le début de la guerre. Alors actuellement, le cargo patiente au large des côtes du sud de la Turquie à la recherche d'un nouvel acheteur qui pourrait se trouver en Syrie. Alors, hasard ou pas, le capitaine du bateau est syrien, une partie de l'équipage également. Et si les 26 000 tonnes de maïs étaient effectivement déchargées en Syrie, ce serait un affront pour l'Ukraine quand on sait que Damas est un allié de poids de la Russie.
Et les autres bateaux, Sophie, est-ce qu'on arrive à les suivre ?
Alors, pour l'instant, oui. Il y en a un d'ailleurs, le Polarnet, qui est arrivé aujourd'hui à sa destination finale en Turquie. Il en reste 8 autres sur les mers, partis ce week-end et ce matin, des 3 ports ukrainiens désormais en service, Odessa, Tchernomorsk et Pivdeni. Outre la Turquie, il se dirige vers la Chine, l'Italie, la Croatie, la Grande-Bretagne et l'Irlande. Il transporte de l'huile et des graines de tournesol, ainsi que du maïs.
Merci Sophie Jousselin du service étranger de RTL. On en parlait en début de journal. La sécheresse qui nous frappe, elle n'épargne pas nos voisins. Dans certaines régions d'Espagne, le thermomètre n'est pas redescendu sous la barre des 35 degrés depuis un mois. Conséquence, la demande en glaçons explose, les fabricants n'arrivent pas à tenir la cadence, les supermarchés doivent rationner, les glaçons manquent dans les verres servis en terrasse à Madrid. Pour RTL, Diane Cambon.
Dans cette entreprise de glaçons Hielo Blasco au nord de Madrid qui fabrique 60 tonnes par jour, il est désormais impossible de satisfaire toutes les commandes, comme le confirme une employée.
On nous appelle de partout, d'Espagne, du Maroc, du Portugal, de Barcelone, de Madrid. Plus personne n'a de glaçons.
Le patron de Hielo Blasco explique une des raisons de cette pénurie.
On n'a pas pu faire de grands stocks à cause du prix trop élevé de l'énergie. On a fermé cet hiver car ce n'était pas rentable et on a repris qu'en mars, sans savoir si le tourisme allait reprendre.
Personne n'avait prévu non plus que la canicule allait s'installer dès le mois de juin en Espagne, faisant tripler la demande de glaçons, avec un tourisme qui bat tous les records depuis la fin de la pandémie.
Les explications de Diane Cambon, correspondante RTL en Espagne. On reste malheureusement dans cette ambiance très chaude. La météo, comme promis, Anthony Kaczmarek est toujours là. Et demain, eh bien, les températures continuent de grimper.
Oui, et d'ailleurs, la vigilance orange canicule commence à s'étendre. La Gironde et le Lot-et-Garonne rejoignent le Gard et le Vaucluse. Demain, on va encore gagner 1 à 2 degrés par rapport à aujourd'hui. Il fera 29 à Lille, quasiment 30 degrés, donc 31 à Nice et à Rennes, 32 à Paris et à Strasbourg, 33 à Tours, à Bourges et à Dijon, 34 à Nantes et La Rochelle, 37 à Bordeaux, à Toulouse, à Nîmes et 38 degrés entre Mont-de-Marsan et Cahors. Ce sera encore respirable le matin au nord, profitez-en, on sera entre 12 et 17 degrés. Côté ciel, c'est simple, toujours et encore du soleil, un temps sec, très dégagé avec à peine un petit voile de nuages dans le sud-ouest et toujours ce vent de nord-est qui assèche l'atmosphère dans la moitié nord et qui va même se renforcer demain jusqu'à 50 ou 60 km/h en bord de Manche. Et puis quelques orages se déclencheront comme aujourd'hui sur les Alpes du Sud, les Pyrénées et le relief Corse en toute fin de journée.
Et Anthony, à quoi s'attendre pour ce nouveau pic de chaleur?
Eh bien c'est à partir de mercredi que la chaleur va encore monter d'un cran et c'est là que de nombreux départements pourraient être placés en vigilance canicule. Pourquoi? Parce que les nuits seront de plus en plus chaudes, on aura du mal à rester en dessous de 20 degrés dans la moitié nord et dans la moitié sud également, surtout d'ailleurs dans le sud-ouest. Et puis dans la journée, les 35-36 degrés vont gagner jusqu'au Val-de-Loire dès mercredi. On aura des pointes à 38 ou 40 dans le sud-ouest. Et puis entre jeudi et samedi, les 35 degrés risquent d'être dépassés sur les trois quarts du pays, y compris au nord. Le pic de chaleur sera sans doute atteint vendredi. Alors ce pic de chaleur justement, il sera beaucoup moins intense que celui qu'on a eu en juillet et en juin, mais il sera beaucoup plus long. C'est ça qui sera vraiment difficile à supporter. Et d'ailleurs, on continue à parler de troisième vague de chaleur et non pas de quatrième, parce que les températures sont restées très élevées ce week-end dans le sud. Voilà, et quand on fait la moyenne, eh bien, on est toujours au-delà du seuil de chaleur. Donc c'est bien la troisième vague de chaleur qui se poursuit et qui va donc s'intensifier.
C'est tout de suite plus clair. Merci beaucoup, Anthony. Je vous dis à dans moins d'un quart d'heure, dans un instant, avec nous, Lamia SM Lali, c'est la présidente de l'ONG Sea Shepherd. Elle prend soin en ce moment du beluga qui est coincé dans la Seine. Lamia SM Lali est l'invitée de RTL Soir dans un tout petit instant. À tout de suite.
RTL Soir. Antoine Cavalierou, l'invité d'RTL Soir.
18h17 sur RTL, bientôt une semaine qu'un beluga est coincé dans la Seine. Il se trouve actuellement dans une écluse dans l'Eure, à 70 km de Paris. Son état inquiète au plus haut point au fil des jours, la crainte de ne pas pouvoir le sauver. On en parle avec Lamia SM Lali. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de l'ONG Sea Shepherd France. Pour commencer, dans quel état est ce beluga? Comment va-t-il ce soir?
Alors, il est en fait plutôt dans un état stable et je dirais même meilleur que ces derniers jours. Les taches qu'il avait sur le dos n'y sont plus. Il s'est frotté ce matin, vers 4 heures du matin, il a commencé à se frotter sur les parois de l'écluse. Et en une demi-heure, il s'était complètement nettoyé. Donc, ce qui est encourageant, c'est que voilà, c'est un animal qui est encore vivace, qui s'accroche, qui s'intéresse à ce qui lui arrive. Il fait de plus en plus de mouvements de la tête, il est curieux, il réagit à son environnement. Donc, on a un peu d'espoir quand même.
Mais ce week-end, vous avez tenté de lui donner à manger, de lui donner des vitamines, il a refusé, c'est parce qu'il est trop stressé?
Alors, effectivement, le principal objet de préoccupation, c'est cette maigreur, le fait qu'il ne s'alimente pas. On pense qu'en fait, c'est un symptôme d'une maladie ou d'un mal, en tout cas, dont il est atteint et dont on ignore la teneur, en fait, qui serait très important de réussir à faire, c'est de savoir s'il s'agit d'un mal incurable ou si c'est quelque chose pour lequel on peut l'aider et le soigner, l'aider à guérir.
Est-ce que l'eau de la Seine est trop chaude? On sait que c'est un animal qui est plutôt habitué à des eaux beaucoup plus froides.
Alors, il est certain que les eaux de la Seine ne correspondent absolument pas à ses besoins physiologiques. C'est pour ça que c'est important qu'il en sorte rapidement. Il est dans cette écluse depuis maintenant 2 jours. Hein, il y est entré de lui-même. Le bateau de Sea Shepherd le suivait et donc on est rentré avec lui. Ça a permis aussi de l'avoir sous surveillance et de pouvoir tenter ce nourrissage et lui injecter aussi des antibiotiques que les vétérinaires lui ont administrés. Maintenant, l'urgence, c'est effectivement de sortir de là dans les meilleures conditions possibles. Et ce n'est pas si simple qu'il y paraît, parce qu'il y a un arbitrage à faire.
Oui, parce qu'on se demande pourquoi on ne pourrait pas essayer d'endormir le beluga, puis de le transporter hors de la Seine, le remettre à la mer.
Oui, alors beaucoup de gens nous posent cette question. En fait, il n'est pas possible d'endormir les dauphins pour la simple raison que ce sont des animaux qui respirent de manière consciente. Donc si vous endormez un dauphin, il ne respire plus et il meurt.
D'accord. Et est-ce qu'on pourrait essayer de l'accompagner vers l'embouchure de la Seine?
Alors, la première option qu'on avait imaginée, c'était que les bateaux de Sea Shepherd draillent, en quelque sorte, vers l'embouchure de la Seine. Le problème, c'est qu'on est à près de 150 km. Il y a encore une écluse à passer. Il est quand même en mauvaise condition physique. Donc, le risque, c'est qu'on n'y arrive pas, qu'on le perde de vue. Parce que quand il sonde, en fait, il réapparaît 700 mètres plus loin, en amont ou en aval. Et puis, surtout, s'il prenait la direction de Paris, ça serait catastrophique.
Les autorités ont évoqué une euthanasie, abréger les souffrances de cette baleine. Est-ce que c'est une option que vous considérez à Sea Shepherd ?
Non, pas du tout en fait. L'euthanasie n'est pas une option à l'heure actuelle en tout cas. On participe à toutes les réunions qui sont faites avec les autorités. Hein, donc on est bien au fait de l'évolution de la situation. On met une garde 24 heures sur 24 de l'animal. On peut statuer sur l'évolution de son état. Comme je vous le disais à l'instant, c'est un animal qui est curieux, qui interagit avec son environnement, qui n'est pas moribond. Il n'est donc pas question à l'heure actuelle d'envisager une euthanasie.
Mais comment ce beluga s'est-il retrouvé là ? Comment a-t-il fait pour remonter la Seine ? On rappelle que c'est une baleine qui est habituée normalement aux eaux polaires.
Alors c'est vrai que c'est extrêmement rare. Hein, de mémoire, il y avait eu un cas de beluga en France dans les années 50.
Oui, c'est ça, ça remonte.
Jamais dans la Seine. Voilà, donc ce qui est étonnant, c'est surtout qu'il ait pu remonter aussi loin avant d'être aperçu. Donc il a nagé sans doute très très vite. Vu l'état de sa peau, qui est en bonne condition, il n'est pas dans la Seine depuis longtemps. Par contre, son état de maigreur, lui, est le résultat de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois sans s'alimenter. Ce que ça signifie, c'est qu'il ne mangeait pas déjà quand il était en mer.
Alors, c'est le premier beluga qui remonte la Seine depuis, vous l'avez dit, des décennies. En revanche, c'est quand même le deuxième cétacé observé dans la Seine, puisqu'on se souvient de l'orque en mai dernier qui, malheureusement, avait fini par mourir. Comment on explique le fait que des cétacés qui ne sont pas habitués à des milieux aquatiques aussi au sud puissent se retrouver comme ça dans la Seine ?
Alors, il arrive que les orques croisent quand même pas si loin que ça. Hein. Il y en a dans le golfe de Gascogne notamment, donc c'est pas aussi surprenant que pour un beluga. C'est vrai que le cas de l'orque est très récent. C'était encore un phénomène inédit, une orque dans la Seine. Il y a eu aussi, avant le beluga, un rorcal qui est rentré dans la Seine et heureusement, il est ressorti de lui-même. Donc, ça pose vraiment la question, hein, tous ces cétacés qui sont en errance et qui rentrent dans l'embouchure du Havre. Faut savoir que les cétacés sont particulièrement sensibles à la pollution sonore. Hein. Le bruit les désoriente. Ils utilisent leur sonar pour se diriger, pour se nourrir, pour communiquer. Donc, toute pollution sonore peut, au moindre mal, les désorienter. Au pire, les tuer, provoquer des hémorragies internes. Or, au niveau de l'embouchure du Havre, on a un trafic maritime qui est extrêmement important. Alors, vous me direz, c'est pas nouveau, sauf qu'il va en s'accroissant. Et puis aussi, depuis quelques mois, il y a la construction de ce chantier d'éoliennes en mer à Courcelles-sur-Mer, qui est extrêmement bruyant et qui a vraisemblablement un impact sur la vie marine, notamment sur les cétacés. Ce qui nous inquiète, nous, en tant qu'ONG de défense de l'océan et de la vie marine, c'est qu'en France, on a quand même des projets d'éoliennes en mer sur toute la façade du littoral, au cœur des aires marines protégées, des parcs naturels et des zones Natura 2000, sur les couloirs de migration, notamment des cétacés. Et on redoute vraiment des effets catastrophiques sur la vie marine.
Votre message est entendu. Merci Lamia Essemlali, présidente de l'ONG Sea Shepherd France. Dans un instant, un jeu pour occuper les enfants en voiture, toujours utile en ces périodes de long trajet. Et puis, Léonard Cassette nous attend pour un voyage dans le temps, le village de Ploufétan, reconstitution parfaite de la Bretagne de 1850. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir. RTL. Laurent Marsic.
Tous les jours, une idée salvatrice lumineuse, un jeu proposé par Laurent Marsic, le jeu qui peut apporter calme et sérénité dans l'habitacle quand vous êtes coincé dans les bouchons.
Voici un jeu d'observation, on l'appelle le kick à vue. Sur un papier, tu dois faire une liste de choses que tu vas forcément croiser sur ta route. Une station-service, un panneau bleu, un verre, un camion, etc. Tu peux par exemple choisir 10 objets. C'est parti ! Alors, te voilà maintenant confortablement installé dans la voiture. Un joueur sera le juge. C'est lui ou elle qui va noter les points de chacun. L'idée est donc de repérer sur le chemin des vacances chaque chose qui a été inscrite sur cette liste.
Une station-service.
Bravo, on note un point pour toi.
Un camion.
Bravo, on note un point pour toi. Une fois la liste épuisée, on compte les points et celui qui en a le plus a donc gagné. Tu peux t'amuser à corser le jeu en exigeant par exemple que les joueurs citent dans l'ordre exact les choses qui ont été notées sur cette fameuse liste. Ça permet au jeu de durer un petit peu plus longtemps. Et maintenant, à toi de jouer.
Le kick à vue, Laurent Marsic, merci mille fois. On vous retrouve à 18h55 pour le plateau télé. Je précise que ce jeu est à retrouver dans votre podcast Un jeu et une histoire, podcast préféré des enfants et de leurs parents, en partenariat avec les éditions Albin Michel Jeunesse. RTL, 18h26, l'heure de s'évader, de partir pour la Bretagne. C'est notre série 7 jours, 7 reportages. Tout l'été, nos reporters avec vous en vacances, avec ceux qui travaillent également. Cette semaine, vous l'avez entendu hein, ce matin, Léonard Cassette est en Bretagne. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous.
Vous êtes à Ploufétan pour RTL, ce village où la vie de la Bretagne de 1850 est reconstituée. Ça a l'air incroyable.
Oui, Ploufétan, c'est un petit bourg perdu dans la vallée du Blavet. Quand on y arrive, on aperçoit une rivière en contrebas. On est complètement perdu en pleine campagne, en fait, à une trentaine de kilomètres de Lorient. Et c'est là-bas que Réjeanne, la responsable de ce village historique, m'accueille.
On fait revivre la vie paysanne en 1850. Mmh. Ploufétan est un peu comme un livre d'histoire, mais vivant.
Il y a même les vêtements, je vois que vous êtes habillée de manière traditionnelle, on peut dire ça comme ça?
Oui, 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 en costume d'époque.
Et donc qu'est-ce qu'on retrouve sur ce costume à ce moment-là?
Un chemisier, un petit caraco, jupe, tablier et coiffe ou sous-coiffe.
Mais c'est pas trop chaud là, en cette période?
On n'a pas froid, je dirais.
Ouais, du coup, c'est sous le soleil que commence la visite du village avec un guide costumé lui aussi. Avec lui, on arpente les rues entre une douzaine de chaumières.
Déjà, tout d'abord, Demad Degnermad. Bonjour et bienvenue à Ploufétan. La première des choses, c'est peut-être de me présenter. Alors, moi, vous pourrez m'appeler le Mathurin. Vous remarquez que nos petits murets, toutes nos maisons, tout ça, c'est en pierre. Hein. Dans une région, on construit avec ce qu'on a sous la main en général. Hein. Et en Bretagne, dès que vous creusez un petit peu le sol, vous tombez sur du caillou.
Et
vous retournez dans votre terrain, vous labourez votre terre, vous avez assez de pierre pour faire tous les murets. Hein.
Bon, pour les maisons. Et Léonard, les visiteurs, alors, est-ce qu'ils sont conquis par ce voyage dans le passé?
Eh bien, celle qui vous répondra le mieux, c'est sans doute Hélène. Elle a quitté le Havre pour une semaine de vacances en Bretagne avec sa famille.
On a loué un gîte près de Sainte-Brigitte et du coup, on a vu ce petit village à visiter. Donc, on est arrivé ce matin et on va rester la journée. Le fait d'être en 1870 et que ce soit typique, etc., on a trouvé ça super sympa. Donc, pour l'instant, aucun regret, c'est super.
On s'y sent vraiment là
Exactement, tout à fait. Tout à fait, de visiter tout le forgeron et tout, c'est super.
Ouais, et puis si on s'éloigne un peu de cette maison du forgeron, qu'on passe devant celle du tourneur de bois, on arrive en haut d'une petite butte où sont installés des jeux traditionnels bretons. C'est là que j'ai croisé Julie et avec elle j'ai essayé un genre de bowling du 19e.
Je vous vois essayer le remonte-boule. C'est compliqué ou pas?
Un petit peu, il ouais. faut être habile.
Vous voulez faire une partie ou pas?
Oui, chaque joueur lance 5 fois sa boule. Si elle passe par le trou circulaire, 1 point. Si elle passe par le trou carré, 2 points.
Ok, donc faut viser le trou carré. Allez-y. Faudrait quand même qu'on mette un point. Dernier essai. Allez.
Bravo.
Magnifique.
Deux points.
Bien joué à vous. Merci beaucoup pour cette petite partie.
Et Léonard, on le disait, ce village de Ploufétan, c'est aussi les tâches ménagères, les activités à l'ancienne.
Absolument. D'ailleurs, quoi de mieux que la nourriture pour goûter à ce voyage dans le
évidemment.
Passé. Du coup, en redescendant de la petite butte des Jeux Bretons, je me suis arrêté par la maison du boulanger Stéphane et il était en plein travail.
Donc ici, je suis en train de préparer des arouennes à Valou. Arouennes, c'est à renverser. À Valou, c'est la pomme en breton.
Okay.
Donc voilà, c'est un gâteau à la pomme. C'est la spécialité du village. Celui-là, on n'en trouve pas, on ne peut pas en trouver ailleurs. Et c'est à base de blé noir et de froment, avec pommes, calva, raisin.
Ça a l'air très bon.
Ah, je confirme. Normalement, il plaît bien, celui-là.
Vous en mangez un petit peu de temps en temps en travaillant ?
Ouais. Pas tous les jours, quand même, parce que... Mais voilà.
Faut garder la forme.
Ah ouais.
Et ce four, du coup, il fonctionne comment ?
C'est un four à chauffe direct. On met le bois à l'intérieur. Une fois qu'on a bien chauffé les pierres d'en haut, la voûte et la pierre du bas, la sole, on évacue la braise, on nettoie et on cuit. Vous voulez voir le four ?
Bah oui, avec plaisir. Hop, ah, il faut une petite loupiote sur la tête pour voir au fond.
Ouais, c'est tellement hermétique qu'on voit pas bien. Donc là, vous voyez l'intérieur. Donc il y a les queen amandes qui sont en train de cuire. Il reste encore des avalous.
Et il fait combien l'intérieur ?
Là, il fait 220 degrés.
Ouais, et puis à 220 degrés, j'avoue que c'était un peu trop chaud pour goûter. Mais rien qu'avec l'odeur, je vous assure qu'on était déjà transportés.
Merci Léonard Cassette, on n'en doute pas et on vous retrouve dès demain dans RTL Matin avec Jérôme Florin. Et qu'est-ce qu'on aura au programme, vous le savez déjà ou pas ?
Eh bien écoutez, on va traverser la mer entre Lorient et Groix à bord d'un bateau et donc on va vivre cette traversée ensemble.
Ça donne envie, à demain Léonard.
RTL Soir, Antoine Cavallero.
18h31, les principaux titres à retenir ce soir. Trois jours après le drame de Pontoise, le motard qui a reconnu avoir renversé les deux enfants, il est mis en examen, il est placé en détention provisoire. On le rappelle, hein, les deux enfants ont été gravement blessés. La petite fille de 7 ans est toujours dans le coma. La justice marocaine favorable à l'extradition de Sébastien Raoult, ce jeune Français de 21 ans, arrêté et détenu au Maroc depuis 2 mois. Il risque 116 ans de prison aux États-Unis où il est accusé de cybercriminalité. Bonne nouvelle pour les automobilistes, les prix des carburants continuent de baisser. Oui, en fait, ils suivent l'évolution du pétrole sur les marchés, donc c'est une bonne nouvelle. La météo, Anthony Kaczmarek, toujours un temps aussi sec, aussi chaud pour demain et pour le reste de la semaine.
Oui, avec du soleil pour tout le monde, un ciel bleu totalement dégagé, et puis des orages éclateront dans l'après-midi sur les Alpes, les Pyrénées, les reliefs corses, comme aujourd'hui, toujours. Ce vent de nord-est qui souffle sur la moitié nord jusqu'à 40 ou 50 km/h rafale. Et puis, le Mistral va disparaître. Il sera remplacé par un vent de sud, une brise marine dans le sud-est. Et donc, il y aura peut-être quelques brumes côtières le matin vers les Bouches du Rhône. Les températures au réveil, 11 à 17 degrés sur la moitié nord, 15 à 23 dans le sud. Et dans l'après-midi, ça grimpe encore par rapport à aujourd'hui. 29 à Lille, 31 à Nice et Orléans, 32 à Paris, Strasbourg et Reims, 34 à Nantes, à Marseille, à Lyon et à La Rochelle, 37 à Bordeaux et Toulouse, 38 à Mont-de-Marsan. 4 départements sont en vigilance orange canicule, le Gard, le Vaucluse, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Et ce même type de temps, on va le conserver jusqu'à vendredi avec une hausse des températures.
Merci Anthony, je vous préviens, on va aller chercher la fraîcheur dans la prochaine demi-heure. 12 degrés, c'est la température ambiante dans les souterrains de la ligne Maginot. Passionnante série RTL de l'été préparée par Samuel Goldschmidt. Au programme également, ces chanteurs qui ne quittent pas leur guitare. Mathieu Chédid, Thomas Dutronc, Vianney et tous se confient à Steven Bellery pour RTL. Ce sera notre LVT, notre Laissez-vous tenter de l'été, avec évidemment aussi le plateau télé de Laurent Marsic. Mais là, dans un instant, le deuxième invité de RTL, Grégory Thomas. Il est restaurateur à Étretat. Étretat, petite bourgade normande bien connue des touristes et saturée justement par les touristes. Il va nous en parler. À tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir, Antoine Cavallero.
Le deuxième invité de RTL Soir à 18h35, Grégory Thomas, restaurateur à Étretat, patron de Le Romain d'Étretat, trésorier de l'Union des commerçants de la ville. Bonsoir.
Bonsoir.
Étretat, qui est donc l'un des lieux les plus prisés par les touristes en Normandie, qui, depuis 2 ans, a vu sa fréquentation encore augmenter. La faute, entre autres, à Lupin, la série à succès de Netflix, portée par un certain Omar Sy. Résultat, sur place, on commence à en avoir marre, ce qui est toujours surprenant pour une destination touristique. Mais Grégory Thomas, vous allez nous expliquer, vous qui êtes au contact de la clientèle tous les jours, est-ce que vous avez ressenti cet afflux massif de touristes ?
Oui, bien sûr, Étretat, on augmente tous les ans notre nombre de touristes, alors dû peut-être aussi à la série, mais pas que à ça. Plus on parle d'Étretat, plus il y a de monde dans Étretat, et malheureusement, le nombre de touristes aujourd'hui fait que nos infrastructures sont plus du tout adéquates au niveau parking, au niveau de pas mal de choses, et ça sature, et les clients n'arrivent plus à venir manger et se restaurer correctement dans Étretat.
Mais ça reste tout de même positif pour Étretat, ou est-ce que vous craignez que ça repousse les gens ?
Repousser les gens, non. Après, c'est plus les locaux du coin. Donc nous, on a perdu une partie de notre clientèle locale à 10 km aux alentours d'Étretat parce que trop de touristes dans Étretat, donc ils peuvent plus atteindre. Et du coup, c'est une clientèle qu'on perd aussi sur des périodes où il y a moins de touristes qui veulent plus venir sur Étretat, en fait.
Et certains riverains sont excédés, on a pu le lire dans certains reportages, au point de construire, de se barricader pour bloquer l'accès à leur résidence. Vous les comprenez ?
Oui, je les comprends, parce que même nous, on a habité Étretat depuis des années, et là, on a déménagé, on a quitté.
Ah oui, vous avez carrément quitté Étretat.
Oui, parce que pas possible de circuler, pas possible de garer quand on a le moindre jour de repos, avec les enfants, quand on a une sortie, on met trois quarts d'heure pour retourner dans notre habitation. Donc c'est invivable pour nous en tant que résident. Donc en tant que commerçant, c'est très bien, parce qu'on manque pas de touristes ni, ils sont tous là et on est content pour ça. Mais effectivement, pour y vivre, c'est très très compliqué en fait.
Et Étretat connu également pour ses falaises, il faut aussi les alerter, ces touristes, sur les dangers que ça peut comprendre une randonnée là comme ça au bord du vide.
On a beaucoup déjà d'informations, beaucoup de choses qui les alertent, mais malheureusement les gens des fois connaissent pas du tout notre milieu. Approximation maritime, horaire de marée, et on a toujours des gens qui se font piéger et des gens qui sont un peu trop près du bord, et quand il a plu fortement, bah ça peut faire des éboulements, et quand c'est comme ça aussi en temps de sécheresse, ça peut faire des éboulements. Donc tous les ans il y a des accidents malheureusement qui pourraient être évités si les gens écoutaient un peu plus les informations.
Merci beaucoup Grégory Thomas, je vous le rappelle, vous êtes restaurateur à Étretat. Merci d'être venu nous alerter sur ces touristes qui saturent votre petite ville si touristique. Merci beaucoup.
RTL, les séries de l'été.
Comme promis, on va se mettre au frais. Imaginez des galeries souterraines, température ambiante 12 degrés. On vous emmène dans les entrailles de la ligne Maginot. Vous savez, ces fortifications construites pendant l'entre-deux-guerres aux frontières de l'Est. Cette semaine, Samuel Goldschmidt vous propose de redécouvrir le rôle de cette ligne Maginot, son histoire. Bonsoir Samuel.
Bonsoir.
Premier épisode avec cette question. Pourquoi ce regain d'intérêt ces derniers mois ?
Eh bien parce que depuis mars dernier et le déclenchement de la guerre en Ukraine, elle revient dans les mémoires. Les directeurs des ouvrages ont immédiatement vu des effets sur les visiteurs.
Plusieurs personnes nous demandent déjà si on peut leur réserver des places.
Ah, la ligne Maginot est redevenue à la mode, je peux vous dire. Deux jours après les premiers coups de canon en Ukraine, on avait déjà les premières demandes. Est-ce que ça résiste à une attaque atomique ? On m'a proposé même de l'argent, 200 € pour si on pouvait passer une nuit dans le fort en cas d'attaque.
Ligne Maginot, c'est d'abord une expression inventée par la presse en 1930, car le ministre de la guerre, André Maginot, qui fait voter la loi sur l'organisation défensive des frontières le 4 janvier 1930, n'est pas n'importe qui. Nicolas Xubac est historien au mémorial de Verdun.
André Maginot, donc, c'est un député de la Meuse en 1914, et qui s'est engagé comme simple soldat. Il va se montrer très courageux en menant des patrouilles devant Verdun, et il sera grièvement blessé le 9 novembre 1914, et après la guerre, il va devenir ministre des Pensions, ce qui est très très important. Il va présider la cérémonie de choix du soldat inconnu le 10 novembre 1920 à la citadelle de Verdun. Donc c'est un personnage voilà, qui va rappeler finalement le sacrifice qu'ont connu les Français, le sacrifice du territoire, et qui va engager son action politique pour faire en sorte eh bien, qu'on ne reconnaisse plus ça.
Le béton est moins cher que les poitrines, ce sont les mots d'André Maginot devant le Parlement, qui résume le choix de la fortification que fait la France dans les années 30 pour une raison très pragmatique. Avec la saignée de la Grande Guerre, le pays n'a plus assez d'hommes en âge de se battre. Claude Poésy préside l'association Amifor qui entretient l'ouvrage du Hackenberg en Moselle.
On n'a plus assez d'hommes pour protéger nos kilomètres de frontières terrestres, maritimes et nos colonies. Et il faut compenser le manque de troupes, donc par une fortification qui va permettre d'économiser sur le terrain des milliers et des milliers d'hommes. Sur un point central, comme ici par exemple l'ouvrage du Hackenberg, on peut monopoliser un millier d'hommes, mais on va couvrir plus de 24 km de front. Et tous ces hommes sont abrités à près de 30 mètres sous terre, sous effectivement des blocs de béton, mais aussi sous les collines, tout le long de la frontière.
Attention, la ligne Maginot ne sera pas une muraille de Chine, nous explique Claude Poésy.
Tous les ouvrages qui sont placés tous les 3 ou 6 km ne sont pas reliés entre eux. Par contre, les tirs se croisent. On se couvre mutuellement avec les tourelles d'artillerie qui peuvent tirer donc à 360 degrés et on protège nos voisins s'ils sont attaqués.
Et ceci dans les collines d'Alsace et de Lorraine, comme dans l'école des Alpes.
Alors Samuel, cette ligne Maginot, elle a été beaucoup critiquée chez nous. Est-ce qu'on a été les seuls à miser sur de telles fortifications ?
Pas du tout, nous rappelle Michel Trutman, colonel en retraite, historien des fortifications. L'Europe entière se couvre de béton dans les années 30 et 40.
On a des constructions qui existent en gros de la Finlande jusqu'à l'Italie, avec des noms assez expressifs. En Finlande, c'est la ligne Mannerheim. En France, c'est la ligne Maginot. En Allemagne, c'est le Westwall. Vous en avez également en Italie, avec le Vallo Alpino de Mussolini. Et alors en Ukraine, vous avez des lignes fortifiées qui ont été construites à l'époque de Staline et de Molotov. On l'appelle la ligne Staline.
Jamais on n'aura autant fortifié que dans ces années 30 et 40, mais il y a un grand malentendu sur cette ligne dans l'opinion publique de l'époque, explique Nicolas Xubac.
Une ligne fortifiée, ça ne sert pas à gagner la guerre. Sauf que dans l'entre-deux-guerres, on a une opinion publique française qui est traumatisée par l'hécatombe de 14-18. Et donc l'opinion publique va voir dans cette ligne Maginot finalement le bouclier qui va permettre à tout jamais d'externaliser la guerre. La guerre aura lieu sur la ligne fortifiée et les Allemands se casseront les dents dessus et on n'aura pas un seul carreau cassé. Sauf que les militaires le savent très bien. C'est pas sur les lignes fortifiées que l'on gagne les guerres, c'est avec les armées qui manœuvrent en fait.
Les armées qui manœuvrent vont être très mal commandées, mais la ligne Maginot a rempli son rôle et très bien. Mais d'abord il faut la construire, ce sera demain dans le deuxième épisode.
Une série de Samuel Goldschmidt, Boris Pirédu pour la mise en onde. Elle est à retrouver en version longue, en podcast sur RTL.fr et sur l'application RTL. Dans un instant, les secrets de nos guitares héros, de nos maîtres de la gratte, ces chanteurs français accro à leurs six cordes, Mathieu Chédid, Thomas Dutronc, Axel Bauer, ils se confient à Steven Bellery juste après le plateau télé préparé avec amour par Laurent Marsic. Vous allez voir, c'est tout un programme.
RTL Soir. RTL Soir, Antoine Cavallero.
18h44, laissez-vous tenter de l'été avec tout d'abord un dossier inédit, les guitares héros à la française, Steven Bellery avec Jérôme Florin.
RTL, laissez-vous tenter de l'été.
Et aujourd'hui, Steven, un dossier spécial guitariste.
Ça va vous plaire.
Ouais, vous avez plongé dans vos archives pour tenter de comprendre quelles relations les guitaristes entretiennent avec leurs instruments. Et la semaine prochaine, on entendra les guitares héros anglophones. Place ce lundi aux Français.
Et car on a quand même quelques guitaristes de talent en France. Oui. Comme Mathieu Chédid, alias M. Voilà 25 ans qu'il court les scènes avec sa guitare. Il vient de publier Rivalité en juin dernier. Mais c'est dans son précédent opus, L'être infini, paru début 2019, qu'il a chanté son instrument. M l'évoquait en filigrane de la chanson Une seule corde, confidence.
Je te dédiais tant de chansons bleues quand sur la ville il pleut.
Est-ce que vous vous rappelez le jour, Mathieu, où vous avez touché une guitare pour la toute première fois?
C'est pratiquement ce que je décris dans cette chanson. Cette chanson est écrite par David McNeil, qui était un grand ami aussi d'Alain Souchon. Et donc quand j'allais effectivement squatter avec les enfants d'Alain Souchon, Pierre, Charles, et puis il y avait Julien Voulzy, enfin bref, toute la bande, on allait dans le grenier comme ça, dans la maison de campagne, et il y avait une guitare d'Alain Souchon, je crois que c'était une Gibson, et il restait qu'une seule corde par défaut dessus. Et effectivement, mes béabas de guitare ont été faits sur cette corde, comme ça, de guitare. Donc j'ai joué sur une seule corde. Et ce fameux David McNeil faisait une sieste à côté. Et on faisait des choses un peu barbares. Ça devait pas faire beaucoup de musique, tout ça. C'était assez bruyant. Et un jour, il vient un peu fâché en disant « Mathieu, t'es gentil, mais la guitare, c'est pas une corde, c'est des accords. » Et donc c'est lui qui m'a appris les trois accords primaires de la guitare. J'avais peut-être 13 ans. Et ça a été un déclic, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, je suis rentré chez moi après ce week-end-là et j'ai demandé à ma mère de me trouver un prof particulier et c'est là qu'a démarré ma passion pour la guitare.
Et plus de 30 ans après, il vous offre donc une chanson.
Oui, je lui ai demandé de me faire une chanson là-dessus, donc il m'a écrit ce texte et je me suis amusé à composer la chanson sur une seule corde de guitare.
Quelle relation vous entretenez-vous avec votre instrument? Vous en jouez tous les jours, il est présent?
Ouais. Bon, déjà j'ai un harem de guitare, hein, c'est-à-dire que j'ai un peu collectionné les guitares, c'est une addiction la guitare. C'est des muses les guitares aussi. Hein. Donc j'ai quand même une reine comme ça, qui est une Stratocaster série L de 1964. Donc cette guitare me suit depuis toujours. Mais oui, j'ai un rapport évidemment affectif à la guitare et sentimental, quoi. Même romantique on peut dire.
Quand elle ressent maison d'animal. Est-ce que c'est bien? M
démarre sa tournée des Zéniths le 30 septembre.
Et lui aussi est considéré comme l'un des meilleurs guitaristes français, c'est Axel Bauer.
9 ans après son précédent disque, le chanteur a sorti en mai Radio Londres, c'est son 7e enregistrement. Il s'offre le luxe d'intégrer dans chaque morceau au moins un solo de guitare, l'occasion d'évoquer avec Axel Bauer son rapport à son instrument.
La première fois que j'ai touché une guitare, c'était quand mes parents m'ont mis en pension parce qu'ils divorçaient et ils voulaient m'écarter un peu de leurs disputes. Et arrivant dans cette pension à Pontoise, qui était un univers que je connaissais pas, je me suis raccroché à ce que je connaissais un peu, c'est-à-dire la musique ou le besoin de m'évader. C'est pour ça que j'ai demandé à ma mère de m'acheter un bout de bois avec des cordes. Elle m'a dit, si t'arrives à tirer un son de ce truc-là, je t'achète une vraie guitare dans un mois. Le premier rapport que j'ai eu avec cet instrument, c'était un rapport carcéral. Je me sentais en prison dans cet endroit et il fallait que je m'évade. Ensuite, c'est devenu un instrument pour draguer les filles. J'avais 17 ans, je commençais à jouer pas trop mal. Je me postais comme ça sur une plage en vacances. C'est ça qui m'a plu dans la guitare, c'est cette communication qu'elle amenait. Parce qu'au départ, je faisais du dessin et le dessin était très solitaire alors que la guitare ouvrait vers l'extérieur. Ça fait plus de 40 ans que je joue de la guitare. La guitare est devenue comme un prolongement de moi-même. C'est devenu très corporel, le rapport avec les cordes, avec... l'instrument, les notes.
Aujourd'hui, vous voyez toujours plus comme un guitariste qu'un chanteur ou ça a changé ?
J'aime les deux, mais pour être parfaitement honnête, je travaille moins la voix que je ne travaille la guitare. Je pense que j'aime beaucoup chanter, en fait. Mais je crois que j'aime plus dire que chanter. Et puis Lou Reed est arrivé, il est entré dans ma vie avec ses chansons qui étaient des accompagnements de son texte avec sa voix, comme ça, très monocorde. Et là, j'ai un peu trouvé la mienne de voix, ou en tout cas, j'étais plus attiré par des gens qui disent, qui racontent. Voilà.
Tout l'homme du monde ne vaut pas la vie.
Axel Bauer part en tournée dès le 14 octobre.
Et Thomas Dutronc a lui commencé la musique grâce à la guitare, Stevenson.
Oui, guitare offerte par son père, Jacques Dutronc. Conversation croisée.
Je lui ai offert une guitare, alors, mais il avait dû m'en voler combien avant, parce que... c'est plus, c'est la seule mère ou pas, je sais plus.
Non, quand j'ai manifesté de l'intérêt pour les guitares, tu m'as offert une guitare nylon, là. Je faisais que de la guitare au début, hein. Cette la chanson s'est tombée dessus comme ça, un peu par hasard. J'aurais même pas dit, il savait même pas.
Non, moi je l'ai su au bar, là, sur la terrasse, qui c'est pas ton producteur, qui revient de Calvi, il me dit ça s'était super bien passé, Thomas avait une voix magnifique. Je ne comprenais pas, moi je me disais c'est peut-être j'ai bu trop de bière ou je ne sais pas quoi. Je l'ai fait parler, il me dit mais Thomas chante, et c'est là où j'ai appris ça, je ne savais pas du tout. Dans ma tête tout de suite ça a tourné vite, je me suis dit pourvu qu'il n'abandonne pas la guitare. Quand on chante, on est quand même plus peinard que de trimballer ses guitares, les étuis, tout ça, donc il faut se méfier, il ne faut pas le laisser tranquille, hein. Il faut toujours la chatouiller, tu vois.
On pourrait toujours la chatouiller plus, mais, mais j'adore ça, je suis mordu, il n'y a rien à faire.
Petit jardin, revisité par les Dutronc, père et fils, extrait de la réédition de Frenchy.
Alors lui est gaucher, brillant instrumentiste, c'est Calogero, Steven.
Calo m'avait reçu dans son studio où ses guitares sont très nombreuses.
Là, il y a ma première basse que mes parents m'ont offert. Et voilà, je garde tout avec moi et ça me rassure de regarder. C'est des objets, hein. Alors on pourrait croire que c'est futile, mais en fait pour moi ça ne l'est pas. C'est profond parce que j'ai besoin de me sentir entouré finalement de ces objets pour créer, quoi.
J'ai vu une vingtaine de guitares depuis qu'on est entré. Elles ont toute une utilité, elles ont tout un rôle quand on enregistre, ou il y en a qui sont pour faire joli entre guillemets?
Non, il n'y en a aucune qui est faite pour faire joli, elles sont, même si elles sont très jolies. J'ai un peu la folie des guitares, hein. J'ai pas de voiture de course, c'est pas mon truc. Mais en revanche, ouais, je craque très vite pour une guitare. En plus, je suis gaucher, donc c'est plus compliqué pour moi de trouver des vieilles guitares, parce que c'est celles qui m'intéressent, c'est les vieilles, des vintage.
Elles ont un son différent, une âme.
Elles ont une âme, j'aime quand l'instrument a vécu, en fait. Après, j'ai des périodes à côté de mon lit. Pendant 2 mois, j'en mets une, et puis après, je change. Pendant 3 semaines, j'en mets une autre. Et puis avant de me coucher, comme ça, je fais quelques accords et ça me fait du bien.
Cette Gibson rouge, là, on l'a vue sur scène, par exemple.
Ouais, c'était l'intro de Liberté Chérie, ça.
Chérie, 2017.
Autre genre, autre artiste, Brigitte Bardot.
Elle a été une icône mondiale, une femme fatale, une actrice élevée au rang de mythe, mais aussi une chanteuse. Elle a dynamité l'image de la femme au cinéma, mais en musique aussi. Elle a été une précurseuse à l'époque avec Françoise Hardy. Bébé a été l'une des premières chanteuses françaises à s'afficher avec une guitare.
J'ai adoré la guitare, jouer de la guitare. Je me la trimballais partout, ma guitare.
parce que elle était ma compagne, voilà. Je partais faire des films à l'autre bout du monde, j'emmenais ma guitare et je glanais par-ci, par-là des chansons, on m'apprenait un folklore d'Amérique latine que je connaissais pas. Au Mexique, j'ai appris des trucs, au Brésil aussi. Enfin bon, je me trimballais ma guitare plus pour mon maquillage. Hein. Dans n'importe quel endroit où tout le monde s'emmerde, on prend une guitare, on commence à chanter et tout le monde se réveille, bat des mains. C'est un instrument de convivialité, je trouve.
C'était comme une bonne copine.
Plus que ça, c'était une confidente.
Et vous avez toujours cette guitare à la maison ?
Je l'ai, j'en joue plus du tout.
Si tu m'apprends à jouer de la guitare, de
Le son de guitare, l'une des nombreuses chansons écrites par Jean-Max Rivière pour Brigitte Bardot.
Et on termine avec un collectionneur, Vianney.
Ouais, qui ne sait même plus combien de guitares il a dans sa maison studio.
Chaque guitare me chante une mélodie différente, puisqu'elles ont toutes un son, une voix différente. Elles sont pas toutes là. Là, il y en a combien ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis il y en a dans les tiroirs, là-bas, il y en a 2. 11, 12. Il y en a 2 en bas, 13, 14. Il y en a 2 en haut, 15, 16. Et puis il y en a quelques-unes chez moi. C'est pas des super guitares. Et les guitares, elles se retrouvent l'une après l'autre sur l'album pour des raisons bien précises. Il y a une guitare que j'utilise énormément, qui est la première que j'ai derrière là, qui est celle de mon père en fait. Et officiellement, il me l'a offerte cet été. Il a dit, bon, ça fait des années que tu me la piques et tout, elle est à toi.
Et si la verse nous touche, toi et moi, on la traverse.
Bon papa, l'un des derniers tubes de Vianney.
Et si la verse nous touche, toi et moi, prends ma main, dis.
Dossier passionnant, ces chanteurs accros à leur guitare. Merci Steven Bellery avec Jérôme Florin ce matin sur RTL. On accueille à présent un homme aux multiples talents, conteur d'histoire, inventeur de jeux en voiture, mais aussi spécialiste du petit écran. Bonsoir Laurent Marcy.
Bonsoir.
Et vu que vous êtes aussi quelqu'un de sensible, sur votre plateau télé ce soir, il flotte comme un air d'amour.
Exactement. Alors, je me suis plutôt bien bidonné en visionnant le documentaire que propose ce soir M6, 20 ans d'amour à la télévision. Un retour en images et avec témoignages sur ces émissions qui promettent l'amour à des anonymes. On appelle ça le dating à la télévision. C'est un petit avant-goût du retour de L'Amour est dans le Pré le 22 août prochain. Ça commence d'ailleurs avec L'Amour est dans le Pré qui a offert à la télé des moments très tendres, mais aussi très drôles, quand soudain, entre deux candidats, l'amour frappait. Souvenez-vous de Damien et Élodie de la saison 8, le jour de leur première rencontre.
Sinon, c'est très bien, c'est super. Hein, je suis content que tu sois vraiment venu.
C'est gentil, merci.
Écoute, c'est sympa, c'est super. Non, je t'ai trouvé très nature, un petit peu.
Oui.
Très bien. Aime la nature aussi, donc c'est super. Puis très gentil, voilà. C'est super.
C'est super. L'amour a aussi frappé ou pas d'ailleurs, et même plutôt pas, dans cette autre émission qui remonte au début des années 2000, Le Bachelor.
Oula.
Un prince charmant, il avait tout pour plaire, et des prétendantes, dont certaines ont d'ailleurs fait carrière à la télé, Karine Ferry par exemple, ou encore Sandra Lou, qui termina l'émission, c'était un moment très dur, en larmes, parce qu'elle y croyait justement, l'amour.
Mais pourquoi t'as fait ça ? Merde ! Je t'ai dit que je t'aimais, est-ce que tu te rends compte ?
Mais la plus mythique des émissions d'amour, c'est évidemment... Tournée Manège sur TF1, qu'on regardait peut-être plus pour se marrer que pour voir des couples se former.
Non, attendez, est-ce que vous êtes quelqu'un de passionné ou est-ce que vous êtes capable d'un amour tranquille, voire platonique ?
Ah bah moi carrément tonique
20 ans d'amour à la télé ce soir, M6, 21h.
Amour, encore amour, toujours, cette fois côté fiction.
Alors dans Camping Paradis sur TF1, avec une histoire de rivalité amoureuse dans le premier épisode intitulé Les Bikers au camping, et de l'amour aussi dans Nu et culotté sur France 5, Nantes et Moutes aux Caraïbes, leur rêve, rencontrer un pirate. Et c'est incroyable parce que les gens qu'ils rencontrent en Guadeloupe, qui est le point de départ, sont mais d'une incroyable gentillesse, ils débordent d'amour. Le truc le plus fou, c'est quand même quand ils vont faire de l'avion stop pour tenter de rallier les îles Grenadines, le territoire des pirates. Les voici face à une pilote d'avion. Écoutez ce qu'elle leur dit.
Par contre, on n'a vraiment pas d'argent. C'est un voyage qu'on fait sans argent.
Et ben,
zéro.
C'est bien. Quand on est jeune, il faut se faire aider par les plus vieux.
Ouais.
Et elle va désembarquer comme ça dans son avion France 5, 20h50. Enfin, de l'amour, ou plutôt de l'absence d'amour, dans un superbe film que diffuse ce soir Arte, qui célèbre les 75 ans d'indépendance de l'Inde. Il y a 9 films, des séries, des documentaires qui sont programmés. Et parmi les films, il y en a un que j'ai vu, que j'ai trouvé bouleversant, il s'appelle La Saison des Femmes. C'est à 22h35, l'histoire de 4 femmes dans un village de l'ouest de l'Inde. 4 femmes qui vont se rebeller contre les traditions patriarcales.
Mon mari n'en a rien à faire de ce qui m'arrive. Je suis revenue chez mes parents. Je ne vois pas où est le mal.
Une fois mariée, l'épouse doit vivre sous le même toit que celui de son mari. C'est la loi. Ton père et ta mère n'ont pas le droit de t'héberger. Rentre chez ton mari avant de...
Au milieu de la violence, il y a l'espoir, l'espoir du vrai amour. Arte, 22h35.
C'est bien noté. Merci beaucoup, Laurent Marsic.